Le rouge et le noir, chapitre 73. Une heure après, comme il dormait profondément, il fut éveillé par des larmes qu'il sentait couler sur sa main. « Ah, oh, c'est encore Mathilde !» pensa-t-il à demi éveillé. « Elle vient, fidèle à la théorie, attaquer ma résolution par les sentiments tendres. » Ennuyé de la perspective de cette nouvelle scène dans le genre pathétique, il n'ouvrit pas les yeux. Les vers de Belphégor fuyant sa femme lui revinrent à la pensée. Il entendit un soupir singulier. Il ouvrit les yeux. C'était Madame de Rênal. Ah, oh, je te revois avant que de mourir. Est-ce une illusion? S'écria-t-il en se jetant à ses pieds. Mais pardon, madame, je ne suis qu'un assassin à vos yeux, dit-il à l'instant en revenant à lui. « Monsieur, je viens vous conjurer d'appeler. Je sais que vous ne vous voulez pas. » Ses sanglots l'étouffaient, elle ne pouvait parler. « Daignez me pardonner. »« Et si tu veux que je te pardonne ?» lui dit-elle en se levant et se jetant dans ses bras. « Appelle tout de suite de ta sentence de mort. » Julien la couvrait de baisers. « Viendras-tu me voir tous les jours pendant ces 2 mois ?»«
Je te le jure, tous les jours. » À moins que mon mari ne me le défende.
Je signe, s'écria Julien. Quoi, tu me pardonnes? Est-il possible? Il la serrait dans ses bras. Il était fou. Elle jeta un petit cri.
Ce n'est rien, lui dit-elle. Tu m'as fait mal.
À ton épaule, s'écria Julien fondant en larmes. Il s'éloigna un peu et couvrit sa main de baisers de flamme.
« Qui me l'eût dit la dernière fois que je te vis dans ta chambre à Verrières ? Et qui m'eût dit alors que j'écrirais à Monsieur de la Mole cette lettre infâme ?
Sache que je t'ai toujours aimé, que je n'ai aimé que toi. »«
Est-il bien possible ? » s'écria Madame de Rênal, ravie à son tour.
Elle s'appuya sur Julien, qui était à ses genoux, et longtemps ils pleurèrent en silence. À aucune époque de sa vie, Julien n'avait trouvé un moment pareil. Bien longtemps après, quand on put parler,
« Et cette jeune Madame Michelet ?» dit Madame de Rênal. « Ou plutôt cette Mademoiselle de la Mole, car je commence en vérité à croire cet étrange roman. »
« Il n'est vrai qu'en apparence, » répondit Julien. « C'est ma femme, mais ce n'est pas ma maîtresse. »
En s'interrompant 100 fois l'un l'autre, ils parvinrent à grand-peine à se raconter ce qu'ils ignoraient. La lettre écrite à Monsieur de la Mole avait été faite par le jeune prêtre qui dirigeait la conscience de Madame de Rênal, et ensuite copiée par elle. « Quelle horreur m'a fait commettre la religion !» lui disait-elle. « Et encore, j'ai adouci les passages les plus affreux de cette lettre !»
Les transports et le bonheur de Julien lui prouvaient combien il lui pardonnait. Jamais il n'avait été aussi fou d'amour.
« Je me crois pourtant pieuse, » lui disait Madame de Rênal dans la suite de la conversation. « Je crois sincèrement en Dieu. Je crois également, et même cela m'est prouvé, que le crime que je commets est affreux. Et dès que je te vois, même après que tu m'as tiré 2 coups de pistolet, »
Et ici, malgré elle, Julien la couvrit de baisers.
« Laisse-moi, » continua-t-elle, « je veux raisonner avec toi, de peur de l'oublier. Dès que je te vois, tous les devoirs disparaissent. Je ne suis plus qu'amour pour toi, ou plutôt, le mot amour est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu, un mélange de respect, d'amour, d'obéissance. En vérité, je ne sais pas ce que tu m'inspires. » Tu me dirais de donner un coup de couteau au geôlier que le crime serait commis avant que j'y eusse songé. Explique-moi cela bien nettement avant que je te quitte. Je veux voir clair dans mon cœur. Car dans 2 mois, nous nous quittons. À propos, nous quitterons-nous ? Lui dit-elle en souriant.
Je retire ma parole, s'écria Julien en se levant. « Je n'appelle pas de la sentence de mort. Si par poison, couteau, pistolet, charbon ou de toute autre manière quelconque, tu cherches à mettre fin ou obstacle à ta vie. » La physionomie de Madame de Rênal changea tout à coup. La plus vive tendresse fit place à une rêverie profonde.
Et si nous mourions tout de suite ? Lui dit-elle enfin.
Qui sait ce que l'on trouve dans l'autre vie ? Répondit Julien. Peut-être des tourments, peut-être rien du tout.
Ne pouvons-nous pas passer 2 mois ensemble d'une manière délicieuse ?
2 mois, c'est bien des jours. Jamais je n'aurais été aussi heureux.
Jamais tu n'auras été aussi heureux ?
Jamais ? Répéta Julien ravi.
Et je te parle comme je me parle à moi-même. Dieu me préserve d'exagérer.
C'est me commander que de parler ainsi, dit-elle avec un sourire timide et mélancolique.
Eh bien, tu jures, sur l'amour que tu as pour moi, de n'attenter à ta vie par aucun moyen direct, ni indirect.
Songe, ajouta-t-il, qu'il faut que tu vives pour mon fils, que Mathilde abandonnera à des laquais dès qu'elle sera marquise de Croisenois.
Je jure, reprit-elle froidement, mais je veux emporter ton appel écrit et signé de ta main. J'irai moi-même chez monsieur le procureur général.
Prends garde, tu te compromets.
Après la démarche d'être venu te voir dans ta prison, je suis à jamais, pour Besançon et toute la Franche-Comté, une héroïne d'anecdote,
dit-elle d'un air profondément affligé.
Les bornes de l'austère pudeur sont franchies. Je suis une femme perdue d'honneur.
Il est vrai que c'est pour toi.
Son accent était si triste que Julien l'embrassa avec un bonheur tout nouveau pour lui. Ce n'était plus l'ivresse de l'amour, c'était reconnaissance extrême. Il venait d'apercevoir, pour la première fois, toute l'étendue du sacrifice qu'elle lui avait fait. Quelque âme charitable informa sans doute M. de Rênal des longues visites que sa femme faisait à la prison de Julien. Car, au bout de 3 jours, il lui envoya sa voiture avec l'ordre express de revenir sur le champ à Verrières. Cette séparation cruelle avait mal commencé la journée pour Julien. On l'avertit, 2 ou 3 heures après, qu'un certain prêtre intrigant, et qui pourtant n'avait pu se pousser parmi les jésuites de Besançon, s'était établi depuis le matin en dehors de la porte de la prison, dans la rue. Il pleuvait beaucoup, et là cet homme prétendait jouer le martyr. Julien était mal disposé. Cette sottise le toucha profondément. Le matin, il avait déjà refusé la visite de ce prêtre, mais cet homme s'était mis en tête de confesser Julien et de se faire un nom parmi les jeunes femmes de Besançon par toutes les confidences qu'il prétendrait en avoir reçues. Il déclarait à haute voix qu'il allait passer la journée et la nuit à la porte de la prison. « Dieu m'envoie pour toucher le cœur de cet autre apostat !» Et le bas-peuple, toujours curieux d'une scène, commençait à s'attrouper. « Oui, mes frères, leur disait-il, je passerai ici la journée, la nuit, ainsi que toutes les journées et toutes les nuits qui suivront. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai une mission d'en haut. C'est moi qui dois sauver l'âme du jeune Sorel. Unissez-vous à mes prières. » etc. Julien avait horreur du scandale et de tout ce qui pouvait attirer l'attention sur lui. Il songea à saisir le moment pour s'échapper du monde incognito. Mais il avait quelque espoir de revoir Madame de Rênal, et il était éperdument amoureux. La porte de la prison était située dans l'une des rues les plus fréquentées. L'idée de ce prêtre crotté, faisant foule et scandale, torturait son âme. Et sans nul doute, à chaque instant, il répète mon nom. Ce moment fut plus pénible que la mort. Il appela 2 ou 3 fois, à 1 heure d'intervalle, un porte-clés qui lui était dévoué pour l'envoyer voir si le prêtre était encore à la porte de la prison. « Monsieur, il est à 2 genoux dans la boue, » lui disait le porte-clés. « Il prie à haute voix et dit les litanies pour votre âme. »
« L'impertinent !» pensa Julien.
En ce moment, en effet, il entendit un bourdonnement sourd. C'était le peuple répondant aux litanies. Pour comble d'impatience, il vit le porte-clés lui-même agiter ses lèvres en répétant les mots latins. « On commence à dire, » ajouta le porte-clés, « qu'il faut que vous ayez le cœur bien endurci pour refuser le secours de ce saint homme. » « Oh, ma patrie, que tu es encore barbare !» s'écria Julien, ivre de colère. Et il continua son raisonnement tout haut et sans songer à la présence du porte-clés. « Cet homme veut un article dans le journal, et le voilà sûr de l'obtenir. Ah, maudits provinciaux! À Paris, je ne serais pas soumis à toutes ces vexations. On y est plus savant en charlatanisme. Faites entrer ce saint prêtre !» dit-il enfin au porte-clés, et la sueur coulait à grands flots sur son front. Le porte-clés fit le signe de la croix et sortit tout joyeux. Ce saint prêtre se trouva horriblement laid. Il était encore plus crotté. La pluie froide qu'il faisait augmentait l'obscurité et l'humidité du cachot. Le prêtre voulut embrasser Julien et se mit à s'attendrir en lui parlant. La plus basse hypocrisie était trop évidente. De sa vie, Julien n'avait été aussi en colère. Un quart d'heure après l'entrée du prêtre, Julien se trouva tout à fait un lâche. Pour la première fois, la mort lui parut horrible. Il pensait à l'état de putréfaction où serait son corps 2 jours après l'exécution, etc. Il allait se trahir par quelques signes de faiblesse ou se jeter sur le prêtre et l'étrangler avec sa chaîne, lorsqu'il eut l'idée de prier le saint homme d'aller dire pour lui une bonne messe de 40 francs ce jour-là même. Or, il était près de midi, le prêtre décampa. Chapitre 74. Dès qu'il fut sorti, Julien pleura beaucoup et pleura de mourir. Peu à peu, il se dit que, si madame de Rênal eût été à Besançon, il lui eût avoué sa faiblesse. Au moment où il regrettait le plus l'absence de cette femme adorée, il entendit le pas de Mathilde. « Le pire des malheurs en prison, pensa-t-il, c'est de ne pouvoir fermer sa porte. » Tout ce que Mathilde lui dit ne fit que l'irriter. Elle lui raconta que le jour du jugement, monsieur de Valenod ayant en poche sa nomination de préfet, il avait osé se moquer de monsieur de Frilair et se donner le plaisir de le condamner à mort. « Quelle idée a eu votre ami ? Vient de me dire monsieur de Frilair, d'aller réveiller et attaquer la petite vanité de cette aristocratie bourgeoise. Pourquoi parler de caste ? Il leur a indiqué ce qu'ils devaient faire dans leur intérêt politique. Ces nigauds n'y songeaient pas et étaient prêts à pleurer. Cet intérêt de caste est venu masquer à leurs yeux l'horreur de condamner à mort. Il faut avouer que M. Sorel est bien neuf aux affaires. Si nous ne parvenons à le sauver par le recours en grâce, sa mort sera une sorte de suicide. Mathilde n'eut garde de dire à Julien ce dont elle ne se doutait pas encore. C'est que l'abbé de Frilair, voyant Julien perdu, croyait utile à son ambition d'aspirer à devenir son successeur. Presque hors de lui, à force de colère impuissante et de contrariété, « Allez écouter une messe pour moi, » dit-il à Mathilde, « et laissez-moi un instant de paix. » Mathilde, déjà fort jalouse des visites de madame de Rênal et qui venait d'apprendre son départ, comprit la cause de l'humeur de Julien et fondit en larmes. Sa douleur était réelle. Julien le voyait et n'en était que plus irrité. Il avait un besoin impérieux de solitude. Et comment se la procurer ? Enfin, Mathilde, après avoir essayé de tous les raisonnements pour l'attendrir, le laissa seul. Mais presque au même instant, Fouquet parut. « J'ai besoin d'être seul, » dit-il à cet ami fidèle. Et comme il le vit hésiter, « Je compose un mémoire pour mon recours en grâce. » « Du reste, fais-moi un plaisir, ne me parle jamais de la mort. Si j'ai besoin de quelque service particulier ce jour-là, laisse-moi t'en parler le premier. » Quand Julien se fut enfin procuré la solitude, il se trouva plus accablé et plus lâche qu'auparavant. Le peu de force qui restait à cette âme affaiblie avait été épuisé à déguiser son état à Mademoiselle de la Mole et à Fouquet. Vers le soir, une idée le consola. Si ce matin, dans le moment où la mort me paraissait si laide, on m'eût averti pour l'exécution, l'œil du public eût été aiguillon de gloire. Peut-être ma démarche eût-elle eu quelque chose d'empesé, comme celle d'un fat timide qui entre dans un salon. Quelques gens clairvoyants, s'il en est parmi ces provinciaux, eussent pu deviner ma faiblesse, mais personne ne l'eût vu. Et il se sentit délivré d'une partie de son malheur. « Je suis un lâche en ce moment, » se répétait-il en chantant, « mais personne ne le saura. » Un événement, presque plus désagréable encore, l'attendait pour le lendemain. Depuis longtemps, son père annonçait sa visite. Ce jour-là, avant le réveil de Julien, le vieux charpentier en cheveux blancs parut dans son cachot. Julien se sentit faible. Il s'attendait aux reproches les plus désagréables. Pour achever de compléter sa pénible sensation, ce matin-là, il éprouvait vivement le remords de ne pas aimer son père. « Le hasard nous a placés l'un près de l'autre sur la terre, » se disait-il, pendant que le porte-clés arrangeait un peu le cachot. « Et nous nous sommes fait à peu près tout le mal possible. Il vient au moment de ma mort me donner le dernier coup. » Les reproches sévères du vieillard commencèrent dès qu'ils furent sans témoin. Julien ne put retenir ses larmes. « Quelle indigne faiblesse !» se dit-il avec rage. « Il ira partout exagérer mon manque de courage. Quel triomphe pour les Valenod et pour tous les plats hypocrites qui règnent à Verrières. Ils sont bien grands en France. Ils réunissent tous les avantages sociaux. Jusqu'ici, je pouvais au moins me dire « Ils reçoivent de l'argent, il est vrai. Tous les honneurs s'accumulent sur eux. Mais moi, j'ai la noblesse du cœur. » Et voilà un témoin que tous croiront et qui certifiera à tout Verrières et en l'exagérant, que j'ai été faible devant la mort. J'aurais été un lâche dans cette épreuve que tous comprennent. » Julien était près du désespoir. Il ne savait comment renvoyer son père. Et feindre de manière à tromper ce vieillard si clairvoyant se trouvait en ce moment tout à fait au-dessus de ses forces. Son esprit parcourait rapidement tous les possibles. « J'ai fait des économies !» s'écria-t-il tout à coup. Ce mot de génie changea la physionomie du vieillard et la position de Julien. « Comment dois-je en disposer ?» continua Julien plus tranquille. L'effet produit lui avait ôté tout sentiment d'infériorité. Le vieux charpentier brûlait du désir de ne pas laisser échapper cet argent, dont il semblait que Julien voulait laisser une partie à ses frères. Il parla longtemps et avec feu. Julien put être goguenard. « Eh bien, le Seigneur m'a inspiré pour mon testament. Je donnerai 1000 francs à chacun de mes frères, et le reste à vous. »« Fort bien, » dit le vieillard, « ce reste m'est dû. Mais puisque Dieu vous a fait la grâce de toucher votre cœur, si vous voulez mourir en bon chrétien, il convient de payer vos dettes. Il y a encore les frais de votre nourriture et de votre éducation que j'ai avancés, et auxquels vous ne songez pas. » Voilà donc l'amour de père, se répétait Julien, l'âme navrée, lorsqu'enfin il fut seul. Bientôt parut le geôlier. « Monsieur, après la visite des grands-parents, j'apporte toujours à mes hôtes une bouteille de bon vin de champagne. Cela est un peu cher, 6 francs la bouteille, mais cela réjouit le cœur. » « Apportez 3 verres, lui dit Julien avec un empressement d'enfant, et faites entrer 2 des prisonniers que j'entends se promener dans le corridor. » Le geôlier lui amena 2 galériens tombés en récidive et qui se préparaient à retourner au bagne. C'étaient des scélérats, fort gais et réellement très remarquables par la finesse, le courage et le sang-froid. « Si vous me donnez 20 francs, dit l'un d'eux à Julien, je vous conterai ma vie en détail. C'est du chenu. » « Mais vous allez me mentir, » dit Julien. « Non pas, » répondit-il. « Mon ami que voilà, et qui est jaloux de mes 20 francs, me dénoncera si je dis faux. » Son histoire était abominable. Elle montrait un cœur courageux où il n'y avait plus qu'une passion, celle de l'argent. Après leur départ, Julien n'était plus le même homme. Toute sa colère contre lui-même avait disparu. La douleur atroce, envenimée par la pusillanimité à laquelle il était en proie depuis le départ de Madame de Rênal, s'était tournée en mélancolie. « À mesure que j'aurais été moins dupe des apparences, se disait-il, j'aurais vu que les salons de Paris sont peuplés d'honnêtes gens tels que mon père, ou de coquins habiles tels que ces galériens. Ils ont raison. Jamais les hommes de salon ne se lèvent le matin avec cette pensée poignante. Comment dînerai-je ? Et ils vantent leur probité. Et appelés au jury, ils condamnent fièrement l'homme qui a volé un couvert d'argent parce qu'il se sentait défaillir de faim. Mais y a-t-il une cour ? S'agit-il de perdre ou de gagner un portefeuille ? Mes honnêtes gens de salon tombent dans des crimes exactement pareils à ceux que la nécessité de dîner a inspirés à ces deux galériens. Il n'y a point de droit naturel. Ce mot n'est qu'une antique niaiserie, bien digne de l'avocat général qui m'a donné chasse l'autre jour, et dont l'aïeul fut enrichi par une confiscation de Louis XIV. Il n'y a de droit que lorsqu'il y a une loi pour défendre de faire telle chose, sous peine de punition. Avant la loi, il n'y a de naturel que la force du lion, ou le besoin de l'être qui a faim, qui a froid. Le besoin, en un mot. Non, les gens qu'on honore ne sont que des fripons qui ont eu le bonheur de n'être pas pris en flagrant délit. L'accusateur que la société lance après moi a été enrichi par une infamie. J'ai commis un assassinat et je suis justement condamné, mais, à cette seule action près, le Valenod qui m'a condamné est 100 fois plus nuisible à la société. « Eh bien, » ajouta Julien tristement, mais sans colère, « malgré son avarice, mon père vaut mieux que tous ces hommes-là. Il ne m'a jamais aimé. Je viens combler la mesure en le déshonorant par une mort infâme. Cette crainte de manquer d'argent, cette vue exagérée de la méchanceté des hommes qu'on appelle avarice, lui fait voir un prodigieux motif de consolation et de sécurité dans une somme de 300 ou 400 louis que je puis lui laisser. Un dimanche après dîner, il montrera son or à tous ses envieux de Verrières. À ce prix, leur dira son regard, lequel d'entre vous ne serait pas charmé d'avoir un fils guillotiné ? Cette philosophie pouvait être vraie, mais elle était de nature à faire désirer la mort. Ainsi se passèrent 5 longues journées. Il était poli et doux envers Mathilde, qu'il voyait exaspérée par la plus vive jalousie. Un soir, Julien songeait sérieusement à se donner la mort. Son âme était énervée par le malheur profond où l'avait jeté le départ de Madame de Rênal. Rien ne lui plaisait plus, ni dans la vie réelle, ni dans l'imagination. Le défaut d'exercice commençait à altérer sa santé et à lui donner le caractère exalté et faible d'un jeune étudiant allemand. Il perdait cette mâle hauteur qui repousse par un énergique jurement certaines idées peu convenables dont l'âme des malheureux est assaillie. « J'ai aimé la vérité. Où est-elle ? Partout hypocrisie, ou du moins charlatanisme, même chez les plus vertueux, même chez les plus grands. » Et ses lèvres prirent l'expression du dégoût. « Non, l'homme ne peut pas se fier à l'homme. » Madame de, faisant une quête pour ses pauvres orphelins, me disait que tel prince venait de donner 10 louis. Mensonge. Mais que dis-je ? Napoléon à Sainte-Hélène, pur charlatanisme, proclamation en faveur du roi de Rome. Grand Dieu ! Si un tel homme, et encore quand le malheur doit le rappeler sévèrement au devoir, s'abaisse jusqu'au charlatanisme, à quoi s'attendre du reste de l'espèce ? Où est la vérité ? Dans la religion ? Oui, ajouta-t-il avec le sourire amer du plus extrême mépris, dans la bouche des Massions, des Frilaires, des Castanèdes. Peut-être dans le vrai christianisme, dont les prêtres ne seraient pas plus payés que les apôtres ne l'ont été. Mais saint Paul fut payé par le plaisir de commander, de parler, de faire parler de soi. Ah, s'il y avait une vraie religion! Sot que je suis! Je vois une cathédrale gothique, des vitraux vénérables. Mon cœur faible se figure le prêtre de ces vitraux. Mon âme le comprendrait. Mon âme en a besoin. Je ne trouve qu'un fat avec des cheveux sales. Aux agréments près, un chevalier de Beauvoisis. Mais un vrai prêtre, un Massillon, un Fénelon. Massillon a sacré du bois. Les mémoires de Saint-Simon m'ont gâté Fénelon. Mais enfin, un vrai prêtre. Alors les âmes tendres auraient un point de réunion dans le monde. Nous ne serions pas isolés. Ce bon prêtre nous parlerait de Dieu. Mais quel Dieu? Non celui de la Bible, petit despote cruel et plein de la soif de se venger. Mais le Dieu de Voltaire, juste, bon, infini. Il fut agité par tous les souvenirs de cette Bible qu'il savait par cœur. Mais comment, dès qu'on sera trois ensemble, croire à ce grand nom Dieu, après l'abus effroyable qu'en font nos prêtres? Vivre isolé, quel tourment! Je deviens fou et injuste, se dit Julien en se frappant le front. Je suis isolé ici dans ce cachot, mais je n'ai pas vécu isolé sur la terre. J'avais la puissante idée du devoir. Le devoir que je m'étais prescrit, à tort ou à raison, a été comme le tronc d'un arbre solide auquel je m'appuyais pendant l'orage. Je vacillais, j'étais agité, après tout je n'étais qu'un homme, mais je n'étais pas emporté. C'est l'air humide de ce cachot qui me fait penser à l'isolement. Et pourquoi être encore hypocrite en maudissant l'hypocrisie? Ce n'est ni la mort, ni le cachot, ni l'air humide. C'est l'absence de Madame de Rênal qui m'accable. Si, à Verrières, pour la voir, j'étais obligée de vivre des semaines entières, cachée dans les caves de sa maison, est-ce que je me plaindrais? L'influence de mes contemporains l'emporte, dit-il tout haut et avec un rire amer. Parlant seul avec moi-même, à deux pas de la mort, je suis encore hypocrite. Oh, XIXe siècle! Un chasseur tire un coup de fusil dans une forêt, sa proie tombe, il s'élance pour la saisir. Sa chaussure heurte une fourmilière haute de deux pieds, détruit l'habitation des fourmis, sème au loin les fourmis, leurs œufs. Les plus philosophes parmi les fourmis ne pourront jamais comprendre ce corps noir, immense, effroyable. La botte du chasseur, qui tout à coup a pénétré dans leur demeure avec une incroyable rapidité, et précédé d'un bruit épouvantable, accompagné de gerbes d'un feu rougeâtre. Ainsi la mort, la vie, l'éternité, chose fort simple pour qui aurait des organes assez vastes pour les concevoir. Une mouche éphémère naît à 9 heures du matin dans les grands jours d'été pour mourir à 5 heures du soir. Comment comprendrait-elle le mot « nuit » ? Donnez-lui 5 heures d'existence de plus. Elle voit et comprend ce que c'est que la nuit. Ainsi moi, je mourrai à 23 ans. Donnez-moi 5 années de vie de plus pour vivre avec Madame de Rênal. Il se mit à rire comme Méphistophélès. Quelle folie de discuter ces grands problèmes! Premièrement, je suis hypocrite comme s'il y avait là quelqu'un pour m'écouter. Deuxièmement, j'oublie de vivre et d'aimer quand il me reste si peu de jours à vivre. Hélas, Madame de Rênal est absente. Peut-être son mari ne la laissera plus revenir à Besançon et continuer à se déshonorer. Voilà ce qui m'isole, et non l'absence d'un Dieu juste, tout-puissant, point méchant, point avide de vengeance. Ah, s'il existait! Hélas, je tomberais à ses pieds. J'ai mérité la mort, lui dirais-je. Mais grand Dieu, Dieu bon, Dieu indulgent, rends-moi celle que j'aime! La nuit était alors fort avancée. Après une heure ou deux d'un sommeil paisible, arriva Fouquet. Julien se sentait fort et résolu comme l'homme qui voit clair dans son âme. Chapitre 75. Je ne veux pas jouer à ce pauvre abbé Chat Bernard le mauvais tour de le faire appeler, dit-il à Fouquet. il n'en dînerait pas de 3 jours. Mais tâche de me trouver un janséniste, ami de M. Pirard et accessible à l'intrigue. »
Fouquet attendait cette ouverture avec impatience. Julien s'acquitta avec décence de tout ce qu'on doit à l'opinion en province. Grâce à M. l'abbé de Frilair, et malgré le mauvais choix de son confesseur, Julien était dans son cachot le protégé de la congrégation. Avec plus d'esprit de conduite, il eût pu s'échapper. Mais le mauvais air du cachot produisant son effet, sa raison diminuait. Il n'en fut que plus heureux au retour de Madame de Rênal.
« Mon premier devoir est envers toi, » lui dit-elle en l'embrassant. « Je me suis sauvée de Verrières. »
Julien n'avait point de petit amour-propre à son égard. Il lui raconta toutes ses faiblesses. Elle fut bonne et charmante pour lui. Le soir, à peine sortie de la prison, elle fit venir chez sa tante le prêtre qui s'était attaché à Julien comme à une proie. Comme il ne voulait que se mettre en crédit auprès des jeunes femmes appartenant à la haute société de Besançon, Madame de Rênal l'engagea facilement à aller faire une neuvaine à l'abbaye de Bray-le-Haut. Aucune parole ne peut rendre l'excès et la folie de l'amour de Julien. À force d'or, et en usant et abusant du crédit de sa tante, dévote célèbre et riche, Madame de Rênal obtint de le voir 2 fois par jour. À cette nouvelle, la jalousie de Mathilde s'exalta jusqu'à l'égarement. Monsieur de Frilair lui avait avoué que tout son crédit n'allait pas jusqu'à braver toutes les convenances, au point de lui faire permettre de voir son ami plus d'une fois chaque jour. Mathilde fit suivre Madame de Rênal afin de connaître ses moindres démarches. Monsieur de Frilair épuisait toutes les ressources d'un esprit fort adroit pour lui prouver que Julien était indigne d'elle. Au milieu de ses tourments, elle ne l'en aimait que plus, et presque chaque jour lui faisait une scène horrible. Julien voulait à toute force être honnête homme jusqu'à la fin envers cette pauvre jeune fille qu'il avait si étrangement compromise. Mais à chaque instant, l'amour effréné qu'il avait pour Madame de Rênal l'emportait. Quand, par de mauvaises raisons, il ne pouvait venir à bout de persuader Mathilde de l'innocence des visites de sa rivale, « Désormais, la fin du drame doit être bien proche, » se disait-il. « C'est une excuse pour moi si je ne sais pas mieux dissimuler. » Mademoiselle de la Mole apprit la mort du marquis de Croisenois. Monsieur de Thaler, cet homme si riche, s'était permis des propos désagréables sur la disparition de Mathilde. Monsieur de Croisenois alla le prier de les démentir. Monsieur de Thaler lui montra des lettres anonymes à lui adressées et remplies de détails rapprochés avec tant d'art qu'il fut impossible au pauvre marquis de ne pas entrevoir la vérité. Monsieur de Thaler se permit des plaisanteries dénuées de finesse. Ivre de colère et de malheur, Monsieur de Croisenois exigea des réparations tellement fortes que le millionnaire préféra un duel. La sottise triompha, et l'un des hommes les plus dignes d'être aimé trouva la mort à moins de 24 ans. Cette mort fit une impression étrange et maladive sur l'âme affaiblie de Julien. « Le pauvre Croisenois, disait-il à Mathilde, a été réellement bien raisonnable et bien honnête homme envers nous. Il eût dû me haïr lors de vos imprudences dans le salon de Madame votre mère et me chercher querelle, car la haine qui succède au mépris est ordinairement furieuse. » La mort de Monsieur de Croisenois changea toutes les idées de Julien sur l'avenir de Mathilde. Il employa plusieurs journées à lui prouver qu'elle devait accepter la main de Monsieur de Luz. « C'est un homme timide, point trop jésuite, lui disait-il, et qui sans doute va se mettre sur les rangs. D'une ambition plus sombre et plus suivie que le pauvre Croisenois, et sans duché dans sa famille, il ne fera aucune difficulté d'épouser la veuve de Julien Sorel. Et une veuve qui méprise les grandes passions, répliqua froidement Mathilde. Car elle a assez vécu pour voir, après 6 mois, son amant lui préférer une autre femme, et une femme origine de tous leurs malheurs. « Vous êtes injuste.
Les visites de Madame de Rênal fourniront des phrases singulières à l'avocat de Paris chargé de mon recours en grâce. Il peindra le meurtrier honoré des soins de sa victime. Cela peut faire effet. Et peut-être un jour, vous me verrez le sujet de quelques mélodrames, etc. Une jalousie, furieuse et impossible à venger, la continuité d'un malheur sans espoir, car, même en supposant Julien sauvé, comment regagner son cœur? La honte et la douleur d'aimer plus que jamais cet amant infidèle avaient jeté Mademoiselle de la Mole dans un silence morne, et dont les soins empressés de Monsieur de Frilair, pas plus que la rude franchise de Fouquet, ne pouvaient la faire sortir. Pour Julien, excepté dans les moments usurpés par la présence de Mathilde, il vivait d'amour et sans presque songer à l'avenir. Par un étrange effet de cette passion, quand elle est extrême et sans feinte aucune, Madame de Rênal partageait presque son insouciance et sa douce gaieté. « Autrefois, lui disait Julien, quand j'aurais pu être si heureux pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. Au lieu de serrer contre mon cœur ce bras charmant qui était si près de mes lèvres, l'avenir m'enlevait à toi. J'étais aux innombrables combats que j'aurais à soutenir pour bâtir une fortune colossale. Non, je serais mort sans connaître le bonheur si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. » Deux événements vinrent troubler cette vie tranquille. Le confesseur de Julien, tout janséniste qu'il était, ne fut point à l'abri d'une intrigue de jésuite, et, à son insu, devint leur instrument. Il vint lui dire un jour qu'à moins de tomber dans l'affreux péché du suicide, il devait faire toutes les démarches possibles pour obtenir sa grâce. Or, le clergé ayant beaucoup d'influence au ministère de la Justice à Paris, un moyen facile se présentait. Il fallait se convertir avec éclat.
« Avec éclat ?» répéta Julien.
« Ah, je vous y prends, vous aussi, mon père, jouant la comédie comme un missionnaire. »
« Votre âge, » reprit gravement le janséniste, « la figure intéressante que vous tenez de la Providence, le motif même de votre crime, qui reste inexplicable, les démarches héroïques que Mademoiselle de la Mole prodigue en votre faveur, tout, enfin, jusqu'à l'étonnante amitié que montre pour vous votre victime. Tout a contribué à vous faire le héros des jeunes femmes de Besançon. Elles ont tout oublié pour vous, même la politique. Votre conversion retentirait dans leur cœur et y laisserait une impression profonde. Vous pouvez être d'une utilité majeure à la religion. Et moi, j'hésiterais par la frivole raison que les jésuites suivraient la même marche en pareille occasion. Ainsi, même dans ce cas particulier qui échappe à leur rapacité, ils nuiraient encore qu'il n'en soit pas ainsi. Les larmes que votre conversion fera répandre annuleront l'effet corrosif de 10 éditions des œuvres impies de Voltaire.
« Et que me restera-t-il ? » répondit froidement Julien, « si je me méprise moi-même. J'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer. Alors, j'ai agi suivant les convenances du temps. Maintenant, je vis au jour le jour. Mais à vue de pays, je me ferais fort malheureux si je me livrais à quelque lâcheté. »
L'autre incident qui fut bien autrement sensible à Julien vint de Madame de Rênal. Je ne sais quelle amie intrigante était parvenue à persuader à cette âme naïve et timide qu'il était de son devoir de partir pour Saint-Cloud et d'aller se jeter aux genoux du roi Charles X. Elle avait fait le sacrifice de se séparer de Julien, et après un tel effort, le désagrément de se donner en spectacle, qui en d'autres temps lui eût semblé pire que la mort, n'était plus rien à ses yeux. « J'irai au roi. J'avouerai hautement que tu es mon amant. La vie d'un homme, et d'un homme tel que Julien, doit l'emporter sur toutes les considérations. » Je dirais que c'est par jalousie que tu as attenté à ma vie. Il y a de nombreux exemples de pauvres jeunes gens sauvés dans ce cas par l'humanité du jury ou celle du roi.
« Je cesse de te voir. Je te fais fermer ma prison !» s'écria Julien. Et bien certainement, le lendemain, je me tue de désespoir si tu ne me jures de ne faire aucune démarche qui nous donne tous les deux en spectacle au public. Cette idée d'aller à Paris n'est pas de toi. Dis-moi le nom de l'intrigante qui te l'a suggéré. Soyons heureux pendant le petit nombre de jours de cette courte vie. Cachons notre existence. Mon crime n'est que trop évident. Mademoiselle de la Mole a tout crédit à Paris. Crois bien qu'elle fait ce qui est humainement possible. Ici, en province, j'ai contre moi tous les gens riches et considérés. Ta démarche aigrirait encore ces gens riches, et surtout modérés, pour qui la vie est chose si facile. N'apprêtons point à rire aux Massions, aux Valenod et à mille gens qui valent mieux. Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature, et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. « Allons, tout va bien, se dit-il, je ne manque point de courage. » Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy revenaient en foule à sa pensée et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation. L'avant-veille, il avait dit à Fouquet « Pour de l'émotion, je ne puis en répondre. Ce cachot si laid, si humide, me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas. Mais de la peur, non, on ne me verra point pâlir. » Il avait pris ses arrangements d'avance pour que le matin du dernier jour, Fouquet enleva Mathilde et Madame de Rênal. « Emmène-les dans la même voiture, » lui avait-il dit. « Arrange-toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. » Julien avait exigé de Madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. Qui sait, peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort, disait-il un jour à Fouquet. J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine Verrières. Plusieurs fois, je te l'ai conté, retiré la nuit dans cette grotte, et ma vue plongeant au loin sur les plus riches provinces de France, l'ambition a enflammé mon cœur. Alors c'était ma passion. Enfin, cette grotte m'est chère, et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit située d'une façon à faire envie à l'âme d'un philosophe. Eh bien, ces bons congréganistes de Besançon font argent de tout. Si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. » Fouquet réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre, auprès du corps de son ami. Lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant, il l'avait laissée à 10 lieues de Besançon. Elle avait le regard et les yeux égarés. « Je veux le voir !» lui dit-elle. Fouquet n'eut pas le courage de parler, ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher. Là était enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux. Le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouquet détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouquet eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre, devant elle, la tête de Julien et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière et, à l'insu de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivés ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne traversés par le convoi l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux en longs vêtements de deuil, et à la fin du service, leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouquet, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouquet faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbres sculptés à grands frais en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants.